7h41 minutes, on le voit, même si de façon globale, les nouvelles sont bonnes concernant l'évolution de cette crise du coronavirus au Québec, le réseau de la santé qui réagit bien, il y a encore une marge de manœuvre, mais c'est clair qu'il y a un problème majeur dans les centres de soins de longue durée. Remarquez que c'était, je pense, assez prévisible, on le dit depuis le début. Les gens les plus vulnérables, ce sont les plus âgés de la société, ce sont les gens qui ont aussi plusieurs problèmes de santé. Mais comment peut-on avoir autant de cas de contamination dans un centre comme celui de Sainte-Dorothée? Je vais faire le point ce matin avec Dr. Régent Hébert, qui est gériatre d'abord et ancien ministre de la Santé et qui est professeur maintenant à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Dr. Hébert, bonjour.
Bonjour, Paul.
Première question. On comprend là, qu'on le savait tous que les centres de soins de longue durée étaient des foyers potentiels d'éclosion. Mais quand vous regardez le cas de Sainte-Dorothée, on se dit, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas eu des mesures préventives, je dirais, plus radicales pour empêcher justement qu'on se retrouve avec une situation comme celle-là?
Bien, je pense qu'au tout début, on n'a pas réalisé l'ampleur de cette épidémie-là et les mesures préventives ont peut-être tardé à se mettre en place, tant au niveau des visiteurs de ces centres-là que des employés. Quoi qu'il en soit, la grande majorité des CHSLD au Québec n'ont pas le même phénomène qu'on voit à Sainte-Dorothée. Là. Peut-être certains ont mis les mesures de prévention un peu plus tôt. Et c'est clair que cette pandémie est causée par un virus qui est extrêmement contagieux et qui peut donc être chez des personnes asymptomatiques. Alors, ça complique beaucoup les choses pour éviter la propagation de la maladie, notamment dans les CHSLD où, bon, il y a du personnel et il y avait au début de la pandémie encore du personnel qui travaillait sur divers centres de soins, donc qui était amené à être en contact avec diverses institutions, ce qui n'aide pas à contenir la pandémie. Maintenant, on essaie de garder le personnel dans les mêmes unités, dans les mêmes centres de soins, mais c'est quand même un phénomène important qui a sans doute été parmi les causes de cette éclosion à Sainte-Dorothée.
Selon vous, quels sont les moyens qu'on doit prendre là, pour parce qu'il y aura toujours des cas, là, malheureusement, de personnes âgées qui vont décéder, là. Mais oui. Si on pouvait développer un arsenal de mesures, ça serait quoi exactement?
Bien, d'abord, la prévention. C'est la première mesure, c'est d'éviter tout contact extérieur des résidents des CHSLD et faire en sorte que le personnel qui travaille auprès de ces personnes-là puisse respecter toutes les mesures de prévention. On a beaucoup parlé du lavage des mains, mais il y a le port du masque maintenant lorsqu'on travaille à moins de 2 mètres des personnes. Alors, prévention, c'est la première mesure. Lorsqu'il y a un cas, eh bien, il faut isoler cette personne-là et appliquer des mesures encore plus importantes. Et là, c'est pour éviter que la personne contamine les autres résidents, mais aussi contamine le personnel. Alors, il y a toute une série de mesures où on va isoler la chambre. Et lorsqu'il y a plusieurs cas qui surviennent sur une unité ou dans un établissement, bien là, dépendamment des lieux physiques, dépendamment de la disponibilité du personnel, on va essayer de faire ce qu'on appelle du cohortage, c'est-à-dire de définir une zone chaude où on va rassembler les cas avec du personnel dédié et pour éviter que le reste du personnel et le reste des résidents puissent être contaminés. Alors, c'est des mesures qui sont prises là, dans les CHSLD pour limiter les dégâts lorsque une éclosion survient.
Maintenant, quand il y a un cas dans un CHSLD, est-ce qu'on le traite sur place ou on l'envoie à l'hôpital?
Moi, je pense qu'il faut le traiter sur place parce que les CHSLD sont aussi des milieux de soins, c'est-à-dire qu'on y trouve du personnel infirmier, on y trouve de l'équipement, donc les gens peuvent avoir une intraveineuse, peuvent avoir de l'oxygène. Je pense que la première mesure, c'est de garder la personne au CHSLD, qui est aussi un milieu de soins, qui est en mesure de donner les soins nécessaires. Maintenant, vous savez qu'il y a des niveaux d'intervention pour les personnes qui sont en CHSLD. Chaque année, on doit, avec l'équipe soignante et avec la famille et la personne, lorsque elle en a la capacité, déterminer le niveau d'intervention s'il arrivait quelque chose. On sait qu'en CHSLD, les personnes sont lourdement handicapées et souvent sont en phase terminale d'une maladie d'Alzheimer ou d'une autre condition extrêmement grave. Alors, on va déterminer le niveau d'intervention. Est-ce qu'on réanime la personne? Est-ce que s'il arrivait quelque chose, on va jusqu'à utiliser les soins intensifs ou le respirateur? Est-ce qu'on se contente de soins de confort seulement? Alors, ces niveaux-là sont établis. C'est bien sûr qu'il y a très peu de personnes en CHSLD qui souhaitent être réanimées et qui souhaitent être sous respirateur. Donc, le nombre de personnes qu'on pourrait transférer éventuellement si la personne avait un COVID vers l'hôpital pour avoir des soins respiratoires, parce que c'est ça qu'on n'est pas capable de donner en CHSLD. On n'a pas de respirateur, on n'a pas de soins intensifs. Alors, le nombre de personnes est assez limité. Et généralement, les gens veulent avoir des soins de confort ou un niveau d'intensité qui ne va pas jusqu'à l'utilisation de respirateurs ou de manœuvres de réanimation. Alors, la grande majorité des soins peuvent être donnés sur place par les infirmières, les médecins et le personnel du CHSLD, d'où la directive de laisser les gens autant que possible en CHSLD pour ne pas contaminer davantage le milieu hospitalier.
Qu'est-ce que vous pensez de l'ouverture qui a été faite de dire à des familles, dans certaines conditions, là, évidemment si les gens ne sont pas contaminés, ne sont pas malades, de rapatrier dans leur famille leurs aînés?
Bien, pour les gens de CHSLD, moi je pense que c'est pas une bonne idée. C'est des gens qui sont lourdement handicapés, qui nécessitent beaucoup de soins et il faudrait que les familles, si toutes les conditions sont réunies, là, acceptent que si la personne se détériore, ils vont devoir continuer à fournir les soins, là, parce que le CHSLD les reprendra pas et il va être difficile d'aller à l'hôpital avec ces personnes-là. Alors, pour moi, les gens qui sont déjà en CHSLD recevront de bien meilleurs soins en CHSLD qu'à la maison, dans une famille, même avec la meilleure volonté du monde. Pour les gens qui restent en résidence privée, où là, les personnes sont relativement autonomes, ben là, il faut prendre d'abord la décision avec la personne âgée elle-même. Hein. On sait que les personnes âgées accordent à la vie une valeur moins importante que les gens plus jeunes. C'est-à-dire que la mort, c'est une compagne de la vie des personnes âgées. Alors, pour eux, ce qui est plus important, c'est le bonheur de leurs enfants et la santé de leurs enfants plutôt que le risque de décès. Alors, pour une personne âgée qui est en résidence privée, pour elle, c'est peut-être pas une urgence, mais un impératif de sortir de la résidence privée puis de risquer d'aller contaminer sa famille. Alors, il faut d'abord prendre la décision avec la personne âgée. Et si la personne âgée souhaite y aller et que la famille a les conditions nécessaires, il n'est pas question de ramener une personne âgée dans un milieu où il y a une autre personne âgée, où il y a des adolescents ou des enfants, où les mesures de prévention des infections sont plus difficiles à faire respecter. Si tout ça est favorable, oui, je pense que les personnes peuvent retourner dans une famille, mais là, il faut bien réaliser que ça va être pour une longue période de temps, au moins 2 mois, à mon avis, si c'est pas plus, et que s'il arrivait une maladie dans l'intervalle, ben la famille devra s'occuper de la personne âgée. Là, il faut prendre ça en compte. Et oui, si toutes les conditions sont réunies, c'est possible, mais je crois pas que ce soit possible dans la majorité des cas.
En terminant, je fais appel à votre spécialité, la gériatrie. J'ai tellement de courriels d'auditeurs, d'auditrices qui sont un peu découragés de leurs vieux parents, à qui on dit de ne pas sortir, à qui on dit de donc rester à l'intérieur, on va aller faire les courses à votre place. Et là, j'ai plein d'anecdotes de monsieur de 88 ans qui décide qu'il s'en va à la banque, puis une madame de 77 ans qui décide qu'elle va aller prendre le thé chez une de ses amies. Comment les convaincre de respecter les consignes, Dr Hébert?
Moi, la peur de qui a la maladie puis qui en meurt, je trouve pas que c'est un bon argument parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, pour les personnes âgées, là, c'est pas ce qui est le plus important. Moi, je pense qu'on devrait plus insister sur le fait qu'ils risquent de contaminer des jeunes comme leurs enfants ou leurs petits-enfants s'ils sortent à l'extérieur parce qu'ils savent pas s'ils sont porteurs de la maladie. Je pense que cette menace-là est beaucoup plus porteuse pour convaincre une personne âgée de ne pas s'exposer inutilement. Et il faut comprendre aussi que les personnes âgées, écoutez, c'est pas des anges, puis c'est pas des saints, hein. Il y a des délinquants chez les personnes âgées aussi.
Il paraît que les traits de caractère s'amplifient en vieillissant. Quelqu'un qui est un peu désagréable peut l'être pas mal plus vieux.
Devient un vieux désagréable, oui, c'est ça. Alors, oui, ça arrive, et je pense qu'il faut que ces gens-là soient rappelés à l'ordre et peut-être même subissent les conséquences en termes d'amende et de contravention. Écoutez, il faut redoubler d'ardeur pour les convaincre, mais chez les vieux comme chez les plus jeunes, il y a des gens qui sont plus difficiles à convaincre puis qui sont des délinquants.
Merci beaucoup. Bonne journée, Dr. Hébert.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir. Régent Hébert et Gériat, ancien ministre de la Santé, professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal.